coupe cette merde.
Pull up, mec.
Ok, waouh, Godefroy ne fait même plus l'introduction légendaire.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Rembobiné.
Efficace. Oh, à chaque épisode, je me demande comment il va réussir à faire tout court. Et à chaque épisode, il arrive à me surprendre. C'est formidable. Donc effectivement, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rembobiné. Et au bon souvenir de nos débuts, d'ailleurs, on va traiter d'une saga de science-fiction.
Ouais.
Alors, on avait fait Alien l'année dernière, c'est vrai, à l'esthétique verte, ouais.
Il y a un peu des... Il y a des petits trucs avec Alien dans...
Oui, il y a deux, trois trucs, ouais. Mais un peu mineur, mais c'est vrai, il y a deux, trois références. Non, en tout cas, voilà, on va retraiter donc... À nouveau une saga de science-fiction assez culte quand même, hein, on peut le dire. Matrix.
Iconoclaste.
On peut le dire.
Ouais. On peut le dire, Iconoclaste. Ouais. C'est très bien, on a déjà perdu les trois quarts de dès l'introduction, c'est génial. Donc ouais, une saga donc assez marquante du tournant des années 90-2000 et qui a complètement bousculé les codes du genre et qui est devenue une influence décisive pour une grande partie de la production hollywoodienne postérieure. En tout cas, dans tout ce qui se faisait dans le monde un peu de l'actionneur, blockbuster, etc. Donc, film des anciennement frères Wachowski, aujourd'hui sœurs Wachowski, ou The Wachowskis, pour ne pas semer la confusion.
Le quatrième, c'est qu'une des deux, déjà. Donc,
effectivement, les trois premiers films donc, qui étaient sortis à quelques années d'intervalle. D'ailleurs, j'ai pas la chronologie exacte.
99, 2003 et 2003. Les deux derniers en 2003.
Les deux derniers en 2003, ouais. Oui. D'ailleurs, bon, en même temps, il y a une espèce de continuité directe entre les deux, avec un to be continued à la fin du 2.
D'ailleurs, la première bande-annonce du 3, on l'a été diffusée à la fin du 2.
Ok, sympa.
Voilà, anecdote
sympa.
Et même sur Netflix, il y a la bande-annonce du 3 à la fin du générique du 2.
Ah bon ? Ok. Encore une anecdote.
Vous pourrez dire ça pendant vos apéritifs entre amis.
Voilà. N'hésitez pas à le ressortir.
C'est toujours ça.
Donc voilà, et cette année, il y a à peine un mois en fait, un quatrième film qui sort.
Du coup, la dernière.
Cette nouvelle mode de relancer des sagas cultes avec des épisodes sortant 20, 30, parfois même, voire même 40 pour Alien par exemple, le premier volet. Donc venant un peu, on peut dire aussi d'ailleurs, changer les bases de la saga pour le meilleur ou le pire, on en parlera. Les avis divergent un peu là-dessus. Et donc voilà, et forcément, c'était l'occasion, cette sortie, de revenir sur cette saga culte sur laquelle on a dit déjà beaucoup de choses, c'est vrai, et pas sûr qu'on ajoute beaucoup. Mais en tout cas, toujours l'occasion de formuler un petit rappel sur le pourquoi en fait, de l'aspect culte de cette saga. Voilà, revenir un peu sur son style, ses innovations, aussi bien visuelles, de mise en scène, mais aussi surtout scénaristiques. Parce que c'est peut-être ça en fait qui a beaucoup marqué dans Matrix, au-delà évidemment d'un style, d'un univers très marqué, c'est cette toute nouvelle manière d'envisager le blockbuster comme une occasion à la pose de réflexion purement conceptuelle et philosophique. Et ce qui a quand même beaucoup marqué une partie des
spectateurs. Ça a changé le game.
Voilà, on peut le dire. Donc, on peut commencer.
Tu peux présenter l'équipe peut-être ?
C'est vrai, c'est ce que je fais d'habitude, mais normalement Godefroy, tu es en charge de faire cette chose.
Là, je peux le faire. Vas-y. Du coup, moi c'est Godefroy, comme d'habitude, fidèle au poste, toujours entouré du coup du bon Samos, qui est là, que vous avez entendu quand même.
Voilà, un petit peu, j'ai déjà un peu parlé.
Déblatère depuis tout à l'heure.
Ouais.
Et là, du coup, on a un fervent admirateur de la trilogie Matrix et un.
Bien de la trilogie, ouais.
De la trilogie,
ouais.
Bien apprécié la trilogie. Et qui n'a pas trop apprécié, je crois, enfin comme vous avez pu le voir, si vous êtes. Lecteur assidu de la Cinémathèque.
Qui ne l'est pas de nos jours.
Le grand Yann qui est avec nous. Salut Yann.
Bonsoir, salut à tout le monde.
Bonsoir, ok. Et on a le pire ennemi d'Yann aussi autour de nous.
Sa némésis.
Il y a des griefs personnels dans l'histoire. Salut Geoffrey.
Salut à tout le monde, c'est pas Yann du coup.
Merci.
Et puis après, comme ça, comme une ombre, comme un spectre qui veille sur nous, le grand Manitou, l'architecte.
L'architecte en personne,
Lucas.
Voilà, qui nous accueille en plus aujourd'hui.
Qui nous accueille, accessible.
Premier épisode de Rembobiné, délocalisé d'ailleurs. Voilà, parce que Rembobiné n'échappe pas à la tendance générale. aussi. Donc voilà. Bon.
Qui veut commencer ? On commence par la trilogie.
On va commencer de toute manière à aborder la trilogie, je pense, originelle, d'un point de vue un peu global, même si évidemment on détaillera un peu sur chaque film en particulier. Mais bon, quand même, alors peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord. Il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ce postulat-là, mais qui a priori, quand même, la trilogie forme un espèce de tout relativement inséparable. Il y en a certains, quand même, qui qui disent que le 1 suffit à
lui-même. Ah bah le 1 suffit totalement à lui-même pour moi. Ouais, carrément. Enfin, si tu t'arrêtes au 1, ça te fait un film qui est quand même très puissant déjà.
Mais ce qui est souvent le cas dans les trilogies d'ailleurs, c'est que le 1, enfin c'est le cas pour Star Wars, Pierre des Caraïbes, enfin tous ces trucs où genre il y a un 1 qui se tient, après, et le 2 et le 3...
Pour le coup c'est quand même une trilogie particulière dans le sens où le 2 et le 3 sont totalement inséparables, enfin c'est littéralement comme un film coupé en deux,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Pour le coup vraiment, tu vois, pour Pierre des Caraïbes c'est pareil,
ouais,
c'est des exemples, il y a pas mal de trucs qu'on fait ce postulat-là, où en fait, c'est ça, dès que tu lances le 2, tu prévois d'en faire.
Voilà, alors que le 1 s'il se plante, tu vas pas derrière en faire d'autres, forcément, voilà.
Non mais peut-être des sagas où par exemple... Tu peux sortir un film même si c'est le 2. Genre si tu prends les Nolan, les Batman de Nolan, tu prends
Dark Knight,
le film en lui-même ça suffit totalement,
oui,
tu vois.
Oui.
Alors que là tu prends juste Matrix Reloaded, c'est pas non plus
non, c'est impossible, tu vois, même ça, non,
alors que juste Matrix 1, bon pour le coup Matrix 1 c'est un concept fou et il y a une fin quand même à Matrix 1.
Elle
est ouverte un peu mais
ouais,
y a une fin,
c'est ça. Oui. Non mais oui ça se...
Et puis le message de la fin du Matrix 1, c'est vrai que ça donne un peu une idée de libération, etc. qui peut-être revient un petit peu moins après dans le 2 le 3 parce qu'on se concentre beaucoup sur l'action. Mais c'est vrai qu'à la fin du 1 ça suffit entre guillemets, mais je pense que le 2 le 3 forment quand même une suite cohérente, entre guillemets, un tout cohérent quand on le regroupe avec le 1 et qui est bien fait à ce niveau-là de l'enchaînement, et notamment parce que ça fait une trilogie qui se finit vraiment en donnant un sens qui a été pensé depuis le premier film, je pense.
Contrairement au 4, du coup.
Et contrairement
au 4 qui n'a rien à voir.
Ça, c'est une parenthèse.
On abordera, je pense, le 4 rapidement à la fin. De toute manière, la Cinémathèque a déjà donné son avis sur le 4.
Deux fois même.
Peut-être 3.
Peut-être 3,
je peux faire un peu. Peut-être la réponse de la réponse, donc mais voilà. Mais donc, si on doit revenir un peu là-dessus, bon, il y a quand même plusieurs éléments qui, disons, sautent aux yeux directement quand on envisage la trilogie Matrix. Et d'abord, pour aller commencer, disons, par le plus superficiel et ensuite s'enfoncer, un style visuel extrêmement marqué et parfois, enfin, pour le coup, pas très subtil, hein, mais pas forcément, je le dis pas forcément négativement, c'est pas forcément une critique. Bon, d'ailleurs, il me plaidait beaucoup, mais bon, quand on pense à Matrix, en général, les mots-clés qui apparaissent très vite, ça va être ralenti, cuir, moulant,
vert,
si possible.
Des lunettes.
Voilà, exactement, photographie verdâtre.
Même le Warner Bros, il est vert au début.
Lunettes teintées.
Ouais.
Lunettes
teintées. Enfin bref, voilà, on a beaucoup d'éléments, on va dire, purement cosmétiques, en fait, qui marquent très fortement la saga et qui contribuent à lui donner une espèce d'unité aussi. Visuel, même paradoxalement, même si justement, enfin, disons ce style-là aussi n'est pas, disons, maintenu pendant toutes les séquences. Il y a un marquage très clair, très délimité entre les scènes dans la matrice et les scènes en dehors, et qui justement, enfin, est rendu d'autant plus clair par ces détails parfois gros visuels. Donc, qu'il s'agit, donc, on l'a dit, des costumes. Donc, toujours, voilà, systématiquement. Les lunettes, en même temps, parce qu'il y a une symbolique aussi, toujours avec ces lunettes, le verre, le miroir, enfin le reflet en tout cas, il y a toujours cette chose, hein, ce gimmick visuel qui va revenir très souvent, pour évidemment faire la métaphore de l'illusion, du presque réel, mais qui en même temps ne l'est pas, etc., qui va venir très, très régulièrement. Mais surtout, et là c'est tout, le meilleur indice, qui permet d'être toujours sûr de savoir où on est, effectivement ce filtre verdâtre à poser sur l'image, qui évidemment rappelle les lignes de code, qu'on peut voir aussi à de multiples reprises et toujours d'ailleurs en introduction des films, et qui représente la réalité de la matrice, qui en fait évidemment n'est qu'un code et n'a rien d'autre de réel. Donc maintenant, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette esthétique là déjà, enfin, je trouve qu'il y a un point intéressant, je trouve qu'elle vieillit relativement bien, ce qui n'est pas évident quand même, parce qu'elle a quand même un côté très marqué de cette période là années 90, où voilà, on sait que justement les mouvances steampunk, gothique, etc. étaient quand même un peu à leur paroxysme.
Bah,
à leur
surtout projet. Cyberpunk pour moi.
Oui,
pour moi c'est surtout ça, c'est que c'est la quintessence du cyberpunk, c'est Matrix quoi. Ouais. Enfin, il y avait déjà eu les prémices, il y a eu Blade Runner, etc. Et, enfin, même tous les romans de Didik, etc.
Le nom ancien aussi.
Ouais, c'est ça. Mais là, genre, c'est quand même. Maintenant, quand on pense cyberpunk, on pense au cuir, on pense au truc de Matrix en fait.
Ouais.
Et les lignes de code, c'est un truc de. Enfin, c'est comme. C'était aussi là une période où, genre, 99, ça sort, il y a le bug de l'an 2000, etc. Enfin, genre, c'était. Les gens étaient quand même beaucoup là-dessus. Et du coup, ouais, aujourd'hui, enfin, tout l'héritage qu'a eu Matrix, genre, même dans les jeux vidéo, etc., même dans le jeu vidéo Cyberpunk qui est sorti, c'est Keanu Reeves, quand même, je crois.
C'est vrai.
Matrix, ça a eu un héritage assez fou, même dans le jeu vidéo, enfin, pas que dans le cinéma, en fait.
Oui, complètement.
Même dans
la pop culture, en fait,
dans
en général.
Dans toute la science-fiction.
Et pour les costumes, il y a un truc que je trouve que c'est fou. C'est quand on voit dans les scènes de boîte de nuit, par exemple, dans le premier film, dans le deuxième film, dans le troisième film, que ça retourne à la fois à Zion, à la fois dans la Matrice. On voit vraiment cette thématique cyberpunk qui se présente. Ça met une ambiance de fou. Genre, vraiment, il y a ça, ça incarne vraiment, je pense, cette idée, cette ère, cette perdition un petit peu mélangée avec vraiment une volonté de faire la fête jusqu'à la mort. Genre, je trouve que c'est très beau, c'est très bien incarné. Et au niveau visuel, ça marque aussi les esprits quand on voit ces différentes scènes.
Mais les scènes de, ouais, les scènes de fête sont ouf dans Matrix. Ouais. Enfin, c'est des moments hyper marquants en vrai. Enfin, déjà, enfin, c'est juste impressionnant parce qu'en plus, c'est une époque où il y avait beaucoup moins de CGI quand même qu'aujourd'hui.
Oui.
Et bah, on en parlait aussi tout à l'heure, genre la scène avec l'agent Smith qui est vraiment l'agent Smith, enfin, où il y a tous les agents Smith, la scène
à la fin du 3.
Où c'est pas des effets, enfin, c'est pas numérique quoi, c'est vraiment des.
Ils ont fabriqué des masques, Smith à la chaîne.
Ouais, c'est un truc de fou. En fait, le budget était. Enfin, et c'est des films qui sont pas non plus si chers quand on compare aux blockbusters d'aujourd'hui. Et on se dit, putain, genre, où va la thune que dans Spider-Man No Way Home, tu vois, genre, des trucs comme ça. Genre, c'est.
Voilà, on aura attendu 5 minutes pour que Godefroy se transforme en Jean-Luc Mélenchon du cinéma.
Non, mais pas du tout, mais genre, il y a les scènes, le nombre de figurants et tout, c'est quand même impressionnant techniquement et tout, de gérer des plateaux comme ça. En fait, ça avait une ambition folle, Matrix, quoi. C'est ça aussi, ça, genre, c'est des films très ambitieux, alors qu'en plus, c'est que leur deuxième film, au Wachowski. Genre, ils ont fait le film Bound avant, que je connais pas, mais.
Non plus.
Mais qui est assez mineur, j'ai l'impression.
Qui est une sorte de thriller un peu. Enfin. Okay. Assez basique, quoi. Qui est pas mauvais, mais.
Qui a rien de
particulier. Qui est clairement pas au niveau des ambitions d'un Matrix, parce que c'est un film qui est dans la réalité, donc t'as pas tout ce côté liberté, d'effets spéciaux, de combat.
Forcément.
Surchorégraphié et tout ça.
Et puis donc direct dès ton deuxième film, arriver avec des trucs comme ça, genre, faut. Enfin déjà, il faut qu'on ait confiance en toi pour te le donner, et puis il faut avoir les moyens de le faire quand même aussi. Puis le talent de le faire aussi, parce que c'est pas non plus donné, quoi. Voilà, mais c'est assez impressionnant, tout ça.
Bah, c'est vrai que, bon, impressionnant, c'est un terme certes très générique, mais qui revient souvent quand on regarde les films Matrix. Notamment, effectivement, bah, Geoffrey, tu as annoncé ce qui va venir, les scènes d'action. Ouais. Ils sont quand même très marquantes, et qui là aussi ont été quand même une révolution pour le genre. À la fois justement par leur côté très impressionnant, surchorégraphié, et qui préfigurait presque ce qu'allaient devenir les films de super-héros modernes, parce que Neo devient sûrement un espèce de surhomme dès la fin de l'épisode 1. Mais aussi, et là par contre, en se démarquant toujours des films d'action, de la plupart des films d'action actuels, par leur très grande lisibilité, je trouve.
Ce qui est quand même assez. Très peu de cuts, c'est des plans assez longs.
C'est ça.
Et très chorégraphié. En fait, c'est plutôt inspiré du cinéma d'action hongkongais et asiatique. Ou d'ailleurs, le fait que ce soit très libre, genre ils vont faire des mouvements qui n'ont aucun sens et tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez Tsui Hark, notamment. Enfin, ils ont complètement emprunté cette culture-là qu'on voit très peu à Hollywood. Et du coup, c'est vrai que ça rend les films ultra rafraîchissants à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas de complexe en mode il faut que ce soit lisible, il ne faut pas que ce soit kitsch ou quoi. Les Wachowski, elles s'en foutent. Et elles vont à fond du délire, ce qui rend les films ultra divertissants en fait, puisque il n'y a pas de limite de réalisme ou de,
C'est de bon goût. Oui, et de toute façon, toutes les outrances sont justifiées par le fait qu'on est dans un monde virtuel où les seules bornes sont celles de la volonté, en fait.
C'est clairement ça.
À partir du moment où on a pris conscience.
En fait, ils font ce qu'ils veulent, même scénaristiquement, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois. Même sur Matrix 4, c'est encore plus visible sur Matrix 4.
Matrix 4, c'est encore plus... la liberté est encore plus dingue à ce niveau-là.
Mais après, c'est une liberté qu'elles se sont créées en partant sur un truc. En vrai, l'idée... Enfin, c'est quand même un scénario original, c'est quand même l'idée de base est quand même. Enfin, elle emprunte à beaucoup de la science-fiction, de la littérature de science-fiction, etc., et même des films précédents. Mais quand même, l'idée de base, on se dit presque que c'est tard que ça arrive en 99, quoi. Enfin, l'idée est folle quand même, elle est assez révolutionnaire et elle est même entrée dans le langage courant, etc. Enfin, genre, c'est un truc assez. Le mot la matrice, c'est quand même un truc qui est surtout à HEC, en plus on est bien placé pour le savoir, tu vois. Mais genre le
c'est vrai, on aurait dû commencer comme ça d'ailleurs.
On aurait dû commencer comme ça, parce qu'il faut en parler quand même. Genre le concept de base, c'est ce qui leur permet après d'ouvrir, enfin d'avoir autant de liberté scénaristique, visuelle, etc. C'est que tu peux à peu près tout faire avec ça, en fait. Et en même temps, c'est un truc qui a aussi beaucoup plu et qui fait la force notamment de Matrix 1. Je pense surtout de Matrix 1 et aussi du 4, du coup, vu que le 4 il fait beaucoup écho 1 et beaucoup moins au 2 et 3, quand même.
Ouais.
Mais c'est le concept original et tout qui permet de poser plein de questions aussi philosophiques, métaphysiques, etc. Le 2 et le 3 abandonnent un peu pour partir plus sur une trilogie de SF plus classique, on va dire. Enfin, avec un... des personnages
ouais,
plus
il y a toujours des réflexions sur le choix ouais. dans le 2 notamment voilà, ouais. c'est moins enfin oui. c'est moins original et ça vole souvent un peu moins haut ouais.
c'est vrai mais il y a toujours des certaines scènes dans le 2 dans le 3 ouais, qui vont dans la continuité quand même de ça effectivement comme tu dis surtout sur
le libre arbitre
voilà,
le choix
qui est quand même la grande question de Matrix en général qui est même reprise encore en 4 beaucoup
avec le mérovingien et l'architecte les deux font des grands monologues là-dessus
ouais
oui le monologue de l'architecte ça mérite quand même un il est pas mal
ouais. Le mérovingien, si on en parlera.
Le mérovingien qui est
un personnage ultime.
C'est ultime, ouais, de la saga. De
c'est, bah, c'est une, le mérovingien, c'est une des preuves que. En fait, c'est une saga qui ne se prend. Enfin, qui quand même est une liberté genre rare. Quoi. Le mérovingien, c'est un personnage, tu mets ça dans n'importe quel autre film. En fait, c'est Matrix, c'est ce que je disais, c'est un film qui peut se permettre des choses qu'aucun autre film peut se permettre. Genre, le 4, toute la partie méta du 4 serait à peu près ridicule si c'était un autre film qui tenterait de le faire. Mais comme c'est Matrix, personnellement je trouve que c'est réussi. Et je pense qu'on est plutôt d'accord aussi, en plus sur ça dans le 4. C'est, c'est pas la partie sur laquelle vous avez des critiques. Et c'est un truc. Et même le personnage du mérovingien, tu mets ça dans un film de SF, tout le monde sort du film quoi. Mais dans Matrix ça passe. Genre tout passe plus ou moins. C'est ça qui est assez ouf quand même. Genre,
C'est vrai, non mais il y a cette espèce de paradoxe. Enfin, c'est pas un paradoxe, mais disons, ils ont réussi à concilier un aspect. Enfin, on va dire tous les avantages que pouvait leur procurer en fait ce principe de monde virtuel, à la fois ce côté extrêmement bac à sable, mais en même temps sans jamais sombrer dans la gratuité totale quoi. Tu vois, en fait, ils auraient pu juste se dire bah voilà, on crée un monde virtuel et donc on fait ce qu'on veut dedans, on va faire un pur film d'action complètement décérébré, juste en disant on met en scène ce qu'on veut quoi, ce qui déjà aurait pu être en fait donner un très bon divertissement probablement. Alors c'est vrai que bon finalement au revisionnage assez récent, parce que moi personnellement j'avais pas revu le film depuis très longtemps. Jeune ado, je les voyais beaucoup. Enfin, surtout le 1 d'ailleurs, un peu moins les deux autres, mais quand même un peu. Et ça avait quand même fait assez forte impression. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tout de même. Enfin, le ressenti que j'ai, c'est que c'est finalement peut-être pas si profond que ça non plus, quand même, Matrix.
Bah, c'est ce qu'ils se disent dans Matrix 4, en fait.
Oui, bon, d'ailleurs, ouais, un peu, c'est vrai, on va y revenir. Mais que bon, finalement, à part ces 2-3 considérations sur la causalité, le paradoxe entre la liberté et l'existence d'une causalité déterminante, il n'y a pas grand chose finalement. Et j'ai pas l'impression que ça va être très loin, en même temps j'ai l'impression que, en général quand le cinéma essaie vraiment juste de philosopher, c'est-à-dire de mettre en scène ces personnages qui philosophent, bah ne serait-ce que pour une question d'échelle temporelle, c'est souvent compliqué en fait de faire quelque chose de vraiment bien. Parce que bon, bah si on passe une demi-heure sur une question philosophique dans un film, bah ça fait déjà un tiers du film, c'est peut-être pas forcément la meilleure manière d'employer ton temps au cinéma, quoi. Mais pour autant, si ce n'est directement, ça a au moins eu le mérite de soulever certaines questions qui derrière ont été approfondies. Ouais. Et là, je trouve quand même qu'il y a quelque chose, et pour, selon moi, c'est là où l'intellectualité et l'art se rejoignent. Souvent, les questions ne se résolvent pas dans l'art, et l'art n'a pas vocation à le faire, mais par contre, effectivement, parfois juste dans sa manière de mettre en relief certaines problématiques,
on n'avait pas... Ça ouvre des espaces, quoi.
Ouais, ça ouvre des espaces à la réflexion, à la pensée. Ce qui a été fait, d'ailleurs, j'ai déjà vu, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il y a un livre qui a été fait... En collaboration par plusieurs philosophes, mais assez éminents, genre notamment Alain Badiou, entièrement consacré aux questions de Matrix, quoi. Donc, c'est juste un exemple pour dire que ça a eu quand même un certain retentissement à ce niveau-là. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire, vous ?
Moi, je pense que effectivement, il y a des pistes intéressantes dans Matrix, mais que la réputation de truc très philosophique est qu'à moitié méritée, parce que pour moi, Matrix, à ce titre-là, c'est peut-être un peu comme Inception ou ce genre de film où en fait. Tout le monde les voit comme ultra compliqués, mais en fait, dès que tu prends un peu de recul, tu te rends compte que ça va pas si loin que ça et que l'intérêt, en fait, il est très largement ailleurs. Et que, c'est juste que avoir un personnage qui, en 5 minutes, t'explique un concept qui a pris 2 heures au scénariste à réfléchir, bah, du coup, ça va très vite, donc t'as pas le temps de comprendre sur le coup. Tu revois le film, tu te rends compte quand même que c'est pas si complexe que ça et que, c'est pas. Pour moi, c'est clairement pas là où est l'intérêt des films. On est plutôt sur le 2 notamment, un énorme film d'action.
Ouais, le 2.
C'est pas pour ces séquences sur le choix et le libre arbitre qui brillent. Mais ce qui n'est pas un défaut en soi,
En plus, ces séquences, moi je trouve que globalement elles sont plutôt bien. Ne serait-ce que parce que, en dehors voilà, donc, des enjeux, on va dire, extra-diégétiques, philosophiques, le discours sur la diégèse du film en tant que tel est quand même relativement intéressant. Tu vois, ne serait-ce que dire voilà, que, par exemple, dans la scène du 2 de l'architecte, la banalisation du rôle de l'élu.
Ouais.
Tu vois, qui en fait n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire, mais une espèce de variable complètement pensée, intégrée au système, etc. Tu vois, ça, c'est par exemple, c'est un point relativement intéressant. Et c'est d'ailleurs une manière, en fait, déjà presque d'amorcer la réflexion qui sera généralisée dans le 4, mais c'est justement de réflexion sur le blockbuster en général.
Mais c'est donc, ça qui est voilà. Fou dans le 4 aussi, je trouve.
Oui, mais qui va être poussé à l'extrême ouais. Dans le 4, mais qui en fait est déjà présent dans un peu immiscé à droite à gauche dans les volets précédents. Déjà, c'est cette chose-là de simplement de dire, mais en fait, non. Et d'ailleurs, de dire, en fait, ouais, l'élu est d'autant plus prévu qu'en fait, c'est peut-être. Donc, du coup, là, si on se place à l'échelle scénaristique, l'une des astuces de scénario les plus utilisées en fait dans les films d'action ou blockbuster, en fait ouais c'est tout sauf une espèce d'émergence de nulle part, mais en fait c'est le plus prévisible, la plus prévisible des prévisions presque en fait ouais. L'émergence d'un donc il y a ce genre de choses qui je trouve sont intéressantes de ce point de vue là. C'est presque là en fait ouais, Matrix est peut-être plus intéressant dans sa manière de penser son médium que de penser,
tout court.
Voilà. Merci.
Après, je trouve quand même qu'il y a un mot qui revient beaucoup dans toute la série, dans toute la saga de manière générale, c'est le mot de purpose. Genre, c'est vraiment la question du sens. Et puis, je trouve quand même qu'il y a un truc qui rend très cohérent quand même les trois premiers films. C'est la question d'une sorte de causalité qui s'enchaîne du premier film, surtout à partir du deuxième, et qui se termine avec le troisième, et qui donne à réfléchir sur est-ce que tout ce que Neo fait est prévu par une sorte de destin, ou est-ce que finalement il l'organise par libre arbitre. Et je pense que à ce niveau-là, il y a quand même un fond entre guillemets de réflexion toujours. Il y a des personnages qui interviennent et qu'on comprend pas toujours véritablement de quelle manière ils interviennent, quel est l'objectif, comme l'oracle, comme l'architecte, quelles sont leurs vraies intentions. Et aussi il y a un truc qui se mélange beaucoup et qui, moi je trouve que est très bien fait dans la saga, mais moins bien fait après dans le quatrième film. Mais un élément qui apparaît, c'est bien sûr la relation d'amour entre Neo et Trinity. Depuis la fin du premier film, quand elle l'embrasse et elle le fait ressusciter, ce qui peut être même... certains se demandent, est-ce que c'est vraiment crédible, quelque chose comme ça. Mais on trouve que c'est beau, donc ça se tient bien. Et après, ça se continue jusqu'au troisième film, où les deux, finalement, mènent leur odyssée jusqu'à achever leur destin, en quelque sorte. Je trouve qu'il y a ce côté un peu... ce mélange d'amour et ce côté un peu de destin qui se réalise à la fin du troisième film, qui fait vraiment un élément de catharsis. Et qui fait en sorte qu'il y a un énorme plaisir qui se dégage quand on regarde, on assiste à la fin, au sacrifice de Neo pour assurer la paix, et qui vraiment nous libère un peu de cette appréhension qu'on a toute la saga et provoque un bon sentiment. C'est un plaisir vraiment, un plaisir authentique quoi, de voir ça et d'assister à cette catharsis, je sais pas qu'est-ce que...
Mais c'est vrai qu'il y a une grosse réussite là-dessus, c'est le traitement de l'amour, parce que l'amour, c'est un truc qu'on revoit dans, enfin, 50% des blockbusters d'une certaine époque parlaient de l'amour comme étant le grand sujet et tout ça, et souvent ça sonne très niais. Et les Wachowski, tu sens qu'elles y croient et que c'est un vrai truc qui leur tient à cœur et que c'est pas juste pour meubler un enjeu dramatique. Et ça passe tellement mieux que dans 90% de la production, la façon qu'elles ont de le traiter. Mais notamment parce que ça va plus loin que juste un amour un peu niais, genre il y a quelque chose de physique quoi dans leur relation qui fonctionne super bien. À ce titre, la scène de soirée dans le 2, au tout début où il y a une énorme fête, c'est monumental.
Ouais.
C'est peut-être la scène la plus érotique de tout le cinéma hollywoodien.
Ok, d'accord.
non mais ouais. Gros public, tu vois.
Ouais, ok, d'accord.
Ouais, okay. Évaluons tout ce qui est film d'auteur et tout ça, mais
d'accord.
Dans un film qui a cette ampleur là et qui souhaite viser un public aussi large. C'est des choses qu'on voit, aujourd'hui tu verrais jamais ça dans un film grand public.
Ouais, non.
Et à ce titre-là, c'est extrêmement bien géré. Et c'est vrai que dans le 4, ça échoue plus. Notamment, il y a un côté dans le 4 féminisme un peu obvious, où on a l'impression qu'on veut mettre Trinity sur le devant de la scène, ce qui est une très bonne chose en soi. Mais qui est fait, genre le psychologue, ou je sais plus comment il s'appelle, le psychologue.
Ouais. Bah, il fait office de psy.
À la fin,
l'analyste, il s'appelle, je crois.
Ouais, l'analyste. Ouais. À la fin, il enchaîne les répliques machistes un peu gratuitement.
Ouais,
et là, on a le sentiment qu'elles font un peu comme la majeure partie des productions hollywoodiennes, mais qu'elles ont perdu cette petite touche personnelle où on sentait que ça leur tenait vraiment à cœur ce qu'elles faisaient. Et elles se retrouvent un peu dans la masse. Et effectivement, ça fonctionne moins bien. Mais c'est vrai que le traitement de l'amour dans la trilogie originale est impressionnant.
Après, le 4, c'est quand même un film qui est que sur l'amour aussi. Quasiment.
Oui,
c'est ça. Vraiment, ça devient en fait le sujet central.
Ouais.
Et donc voilà, après, tu perds un peu le côté. Enfin, le côté sujet sous-jacent, mais qui est finalement très puissant. Quoi.
Juste pour revenir à peu près compléter ce que tu disais, Geoffrey, parce que je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, surtout, ce féminisme un peu grossier apparaît comme très grossier, parce qu'il paraît justement beaucoup moins. Enfin, pas féminin, mais du coup, le discours machiste, en tout cas, par exemple, dans la bouche de l'analyste, paraît beaucoup moins crédible disons, aux yeux de ce qu'est le monde de Matrix en général. Je veux dire, évidemment, il y a toujours eu des parallèles entre ce que disait Matrix et ce que... Enfin, et en tout cas, enfin, considérer Matrix comme une critique de notre société concrète, voilà, donc ouais. Par exemple, on a beaucoup fait le parallèle avec la société capitaliste aliénante, ouais. etc., donc, où justement donc, les hommes sont réduits à des matières premières, des ressources, etc., comme ouais. dans le premier Matrix, etc. Donc on a toujours fait ce genre de parallèle. Mais pour autant, on peut évacuer cet élément et comprendre le film pour ce qu'il est en tant que tel. Quoi. Juste dire, bon, bah, c'est une histoire, ça pourrait presque être un conte et avoir aucun rapport avec la réalité, probablement que c'en a un, c'est plutôt évident, mais on pourrait l'évacuer. Là, ça ne fonctionne pas parce que l'analyste, c'est un logiciel qui méprise l'humanité en tant que telle. A priori, la question de la différence des genres l'intéresse peu. Il méprise autant les hommes que les femmes. Hein, ils sont tout aussi misérables à ses yeux, ne serait-ce que parce qu'ils ressentent des sentiments. Ce qui les rend manipulables. Et d'ailleurs, tout son principe d'organisation de la nouvelle matrice, fonctionne à partir de ça, de l'idée que les émotions sont prévisibles, etc., et que donc on peut s'organiser à partir de là. Donc, en faire un personnage de macho. Bah, en fait, la ficelle est trop grosse. On comprend que c'est pas un discours authentique qui collerait à la psychologie du personnage, mais un propos qui est surajouté pour dire ouais. « Ah, regardez, c'est quand même pas très bien
ouais, d'être mais c'est super parce qu'il a Trinity face à lui, tu vois. Oui, parce que c'est Trinity qui est en fait la grande... Enfin, l'héroïne du...
De... Ouais, mais tu vois, Neo, il lui fait jamais une réplique voilà. mise en ouais. main. Oui, à aucun moment.
Parce que bon, après, c'est comme ça.
Non, mais contrairement au personnage, par exemple, de l'architecte dans la trilogie, qui est juste un mépris de l'humanité en général, ouais. qui est beaucoup plus ouais. compréhensible, en fait, à partir de là, parce que de fait, l'humanité, c'est une espèce primitive qui a été dominée et réduite en esclavage par les machines, donc à partir de là, qui mérite le mépris des machines, tu vois. Enfin, en tout cas, pour une certaine considération de l'existence et même de la vie, c'est compréhensible. Mais donc là, c'est vrai que je dirais que sur ce propos un peu plus politique de Matrix, et d'ailleurs, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que Matrix est meilleur pour penser le cinéma que pour penser tout court. Là, c'est moins bon. C'est quand même, je trouve qu'il y a un truc qui est manqué complètement. Donc justement, je ferai là-dessus. Mais vas-y, Hugo, fera vu que tu.
Ah non, mais de toute façon, déjà, c'est quand même très, très. Enfin, c'est très. On n'entend pas beaucoup ça dans tout petit moment de Matrix 4.
C'est
à la fin,
c'est assez récurrent quand même.
Ah ouais
il y en a quelques fois, mais c'est vrai que c'est pas principal. C'est surtout vers la fin, dès que Trinity et l'analyste font face à face.
Ouais, ouais, là quand
il est en roue libre, mais
quand il maîtrise un peu la Matrix.
Il y a quand même une scène aussi au début. Je crois que c'est la première scène, ou peut-être la deuxième, avec l'espèce de nouvelle héroïne du film, qui n'est pas vraiment une héroïne, mais ce qui est jeune, qui a une teinture bleue. Et à un moment donné, je crois que quand elle rencontre Morpheus pour la première fois, elle débite de manière très rapide, en une dizaine de secondes, mais en débitant plusieurs phrases, ce qui ressemble à une espèce de caricature de discours sur la théorie du genre et sur la binarité.
Mais tu peux pas leur reprocher ça, Wachowski.
Bah, disons que dans l'absolu, ça me dérange pas qu'elles introduisent ces thématiques dans leur film, mais je trouve que c'est pas très subtil, encore une fois, et que ça colle pas vraiment à ce que raconte. Le récit, alors si, ils amèneraient à baiser ça, alors ouais. Le terme de binarité est pratique pour Matrix, donc ça, à la limite, ça me dérange pas. Il est réutilisé souvent dans le film, à d'autres propos, et ça me dérange pas, parce que, bon, déjà, il est polysémique, et qu'en plus, bah, rien que symboliquement, binaire, 0-1, ouais, codage, ok, quoi, d'accord, Matrix, ça me va. Et puis qu'en plus, ça colle aussi à la thématique de la liberté, donc le choix, est-ce que le choix, est-ce qu'il y a binarité du choix, est-ce que c'est plus compliqué, machin. Donc ça allait, mais vraiment, il y a certains instants très précis où je trouve que le film sort un peu de lui-même, quoi, pour devenir une espèce de tribune, et personnellement, ça me dérange un tout petit peu. C'est pas ça qui me fait détester le film, mais...
Ouais, parce que le problème, c'est pas tant qu'ils en parlent, ça c'est logique, c'est plus qu'ils en parlent comme tous les autres films... Américains normaux, et du coup, il n'y a pas vraiment de plus-value à ce qu'elles soient les premières concernées, en fait, les Wachowski. Mm. Parce que justement, elles auraient pu en parler, mais en apportant une sorte d'éclairage un peu plus original et plus intéressant sur le sujet. Et là, en fait, ça aurait été n'importe quel mec blanc américain de studio qui en parlerait, il l'aurait fait exactement de la même façon.
Ça. Oui, c'est ça, parce que bon, juste encore pour fermer la parenthèse, mais à la limite, si on devait faire un grand film qui défendrait la théorie du genre, on attendrait un film incarné, en fait, on attendrait un film qui, très concrètement, met en scène. Quelqu'un en proie aux troubles du genre.
Regarder Sense8 alors.
Voilà. Ouais, mais voilà, elle le fait bien dans Sense8.
Mais là, bon, ça n'a pas grand intérêt.
Si ou Titan, ou Titan. Regardez Titan.
Par exemple. Non, voilà. Mais sinon, c'est bon, juste, débiter très rapidement.
Je comprends. C'est tout. Bon, refermons cette parenthèse, c'est quand même pas le cœur de Matrix.
Voilà,
c'est
clairement pas le cœur de Matrix, pas complètement. On peut faire un podcast de 30 minutes dessus.
Il y a un parallèle que je voudrais bien mettre en avant, c'est. La relation un peu différente qu'il y a entre l'architecte et le psy, parce que c'est vrai qu'on a parlé du coup du psy dans une autre optique, mais moi je trouve personnellement que il a perdu tellement. C'est une figure qui se fait un peu, pas peut-être un nouveau architecte, mais qui veut rappeler un petit peu l'architecte d'une certaine manière. C'est le nouveau concepteur, entre guillemets, oui, de Matrix. Et moi, je le trouve tellement beaucoup plus faible comparé à ce qu'était la figure imposante de l'architecte dans le deuxième film. C'est-à-dire qu'il avait une logique implacable dans le deuxième film, l'architecte, avec son discours, avec son raisonnement. C'était véritablement une machine. Et moi, je trouve que le psy dans le quatrième film, déjà, ça paraît un peu qu'il se laisse trop facilement battre. Et ça paraît que finalement, c'est pas très difficile de trouver un plan. En plus, un truc aussi risqué qu'essayer de sauver Trinity et de l'enlever du monde de machine, de la ville des machines pour la faire ressortir. Moi, je trouve qu'il ne s'impose pas suffisamment. Et surtout, à la fin, il réussit à trop facilement se faire écraser dessus par Neo et Trinity. Pour le fait simplement qu'il n'a pas suffisamment pensé le plan et il n'a pas réussi à prévoir des failles dans son système. Et à mon avis, ça, c'est assez dommage. Parce que c'est vrai que ça enlève... Il y avait des figures imposantes dans la saga. Il y avait, qui ne réapparaît pas non plus, Hugo Weaving, dans le rôle de Jean Smith, qui réapparaît sous la forme du boss de Neo, mais d'une autre manière, qui se libère, entre guillemets, à un moment, quand il a une réminiscence du passé, mais ne s'impose pas non plus. Le nouveau Morpheus, qui ne réussit pas à s'imposer à la figure de Laurence Fishburne. Il y a des figures comme ça, imposantes, qui étaient présentes dans les trois premiers films, qui ne sont pas, du coup, présentes dans le quatrième film. Et je trouve que ça, c'est dommage, parce que ça enlève du coup ces figures imposantes et ça enlève un certain goût qu'il y avait de voir ces acteurs, de plus les voir retrouver dans le quatrième film.
Tu les vois un petit peu, mais...
oui,
dans
mais...
Dans les flashbacks, c'est vrai.
Après, bon, moi, ça dépend des personnages. C'est vrai que bon, l'agent Smith, il perd beaucoup en charisme quand même.
Parce qu'il perd tous leurs personnages.
Morpheus, c'est juste un autre... c'est totalement... Enfin, c'est un autre personnage, en fait. Genre, il a plus du tout les mêmes... caractéristiques que le Morpheus de Laurence Fishburne, tu vois. Ouais. Genre là, c'est un autre perso qui, bon, est différent, tu vois. Certes, peut-être moins charismatique que... Parce que c'est pas du tout le même... C'est pas du tout les mêmes acteurs aussi. Genre, c'est des méga acteurs. Hugo Weaving et Laurence Fishburne, c'est des acteurs hyper... quand même, tous les acteurs, Jada Pinkett Smith et tout. Enfin, c'est des méga acteurs, quoi. Bon, après, l'essentiel, c'est quand même qu'il y ait Keanu Reeves et...
Oui, mais justement, moi, j'ai tendance à penser... étant donné en plus le ton général de ce Matrix 4, quand même, qui s'assume comme une quasi-comédie, quand même, on peut le dire. Enfin, en tout cas, surtout pour sa première partie, moins pour la suite.
Oui.
Donc, pour moi, une saga aussi grosse, finalement. Je sais pas combien ils ont eu de budget pour Matrix 4, mais probablement qu'ils pouvaient avoir à peu près ce qu'ils voulaient. Ça me paraît pas... Enfin, je pense que c'est un choix complètement assumé et volontaire d'avoir pris des acteurs, en fait, peu charismatiques pour remplacer les plus charismatiques de la saga.
Ouais, je me suis fait la même réflexion.
Voilà, je pense que c'est complètement assumé, en fait, de désacraliser ces rôles, qui étaient ceux, par exemple, magistralement de l'agent Smith, de Morpheus, ou même de l'architecte, en prenant finalement des acteurs déjà beaucoup plus jeunes, la plupart du temps. Donc on sait que, quand même, que ce soit mérité ou pas d'ailleurs, que l'âge joue beaucoup avec le charisme, quand même, qu'elles sont assez liées. Et même qui cabotinent beaucoup dans leur jeu, quand même. Notamment l'agent Smith, quoi, qui, quand même, de personnage très cynique, très fort, devient... Alors certes, il garde un espèce de contour de cynisme, mais un peu enjoliveur...
Il n'est pas vraiment méchant, l'agent Smith, dans Matrix 4.
Non, non. Et à la fin même, c'est un peu l'impression qu'il veut s'allier, pas vraiment s'allier, mais avec Neo contre le psy, parce que les deux, finalement, ils ont intérêt à un peu faire tomber le psy, pour l'agent Smith aussi, pour se libérer complètement de cet emprisonnement que la Matrix lui a mis, et Neo pour se libérer également. Donc c'est vrai que c'est assez drôle, finalement, le changement de ton qu'il y a dans l'agent Smith, qui finalement... convergent un peu, les intérêts des deux convergent finalement un petit peu contre le psy. Mais en même temps, est-ce que ça enlève pas non plus de la figure du duel, c'est-à-dire du duo qu'il y avait entre Neo et Smith, qui faisait le yin-yang, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment il y avait un équilibre entre les deux, et leur relation, pour moi, personnellement, c'est ce qui comptait beaucoup plus que la relation entre Neo et Trinity, que tout autre élément dans la saga initiale, c'était comment ils se confrontaient les deux depuis le début, et comment ils faisaient un contrebalance. Et là, bah, on la perd complètement au profit du coup du fait d'explorer la relation entre Neo et Trinity, et il n'y a plus vraiment ce côté Neo-Smith, le duel entre les deux, la confrontation, l'opposition qu'il y a entre les deux, qui est fondamentale dans la saga. Donc je trouve que ça aussi c'est peut-être un peu dommage, mais dans ce qu'il espère.
Bah, encore une fois, après, là on peut ouvrir un truc plus général sur Matrix 4, c'est que, bah, comme tu disais, Sam, c'est... après, pour moi, c'est la meilleure manière de faire un Matrix 4, en fait. Parce que vouloir continuer, enfin, re-rentrer dans un truc qui était fini, qui est close, elle est close, la trilogie, vouloir re-rentrer dans un truc très... qui se prend quand même un peu au sérieux et tout, ça aurait été un peu... ça aurait vite tourné au film raté, quoi, je pense. Oui. Alors que là, Enfin, en vrai, ça change totalement le ton et du coup, ça ouvre. Enfin, ça rajoute. Enfin, qu'on aime pas, mais ça rajoute une dimension nouvelle à la saga, quoi. Qui est certes différente et qui certains trouveront que ça la gâche et que ça enlève le côté un peu presque, enfin mythologique, enfin voilà, mystique de la saga. Pour un peu, mais c'est aussi. Enfin, c'est quand même une des premières fois, je pense, dans l'histoire du cinéma où il y a une saga qui arrive à se prendre comme objet de réflexion et qui arrive à faire preuve d'autodérision. C'est quand même fou ce que fait Matrix 4. Quoi.
C'est vrai. Mais au début, c'est vrai que c'est incroyable. Honnêtement, moi, depuis...
Et notamment dans la première partie. Enfin, surtout dans la première partie.
Surtout la première partie, mais voilà.
Mais après, la deuxième partie, moi, je l'aime bien pour des raisons... Enfin, il y a quand même des scènes hyper marquantes dans la deuxième partie. Enfin, je trouve qu'il y a des idées assez folles. Enfin, de la scène où les humains sont comme des bombes, là.
Oui, ouais,
par la fenêtre. Ça, c'est fou. Enfin, genre, c'est hyper marquant quand t'es au ciné. La scène de combat dans le café qui est hyper stylée aussi. Enfin, il y a quelques scènes quand même très stylées où tu vois qu'elles n'ont pas vraiment perdu la main non plus sur les scènes d'action.
Mais il y a beaucoup moins de chorégraphie, je pense, quand même. Que,
ouais. Mais peut-être moins, parce que aussi l'époque a changé là-dessus. Il y a beaucoup plus d'effets spéciaux. Et, donc, voilà,
mais même visuellement, je trouve que c'est beaucoup moins poussé, parce que notamment, moi je trouve que ce qui marche extrêmement bien, bon, alors j'ai revu que le 2 et le 3, mais je pense que c'était aussi le cas dans le 1, mais c'est surtout le cas dans le 2.
Il y a moins d'action.
C'est cet univers visuel, notamment. Bah, le couloir avec toutes les portes, la maison du mérovingien, il y a tout un... La gare au début du 3. Enfin, il y a une gestion des visuels et des choses qui vont te rester en tête. Et tu dis, ça, c'est Matrix, quoi. Il y a un truc. Quasiment chaque scène, quand tu revois le 2 10 ans après, quasiment chaque scène, tu t'en souviens. Il y a une idée visuelle par scène pour créer un univers. Même les personnages, le mérovingien, bah, il faut qu'il parle français. Il y a les jumeaux, il faut qu'ils aient des dreads et qu'ils soient transparents. Le pote de l'oracle, il faut qu'il soit habillé en jabonnet. Enfin, il y a tout un truc où chaque personnage doit être extrêmement identifiable directement. Et pour moi, c'est clairement une des énormes forces de la saga. Et je trouve que dans le 4, bah, on s'en fout de ça, parce que Smith, c'est Henry Cavill en moins connu. Enfin, c'est une sorte de réplique beau gosse.
C'est un acteur de soute, je crois. Non,
c'est ça. Ouais. C'est ça qui est pas très intéressant. L'analyste,
Barney Stinson. Il restera Barney Stinson toujours.
C'est ça, genre vraiment. Il y a aucun personnage. Même le bureau.
C'est un parti pris, ça aussi.
Le bureau de l'analyste.
C'est pour ça, je pense.
Tout est volontaire, hein, tout est clairement volontaire. Mais du coup, ça fait qu'on perd une des énormes.
Il y a quand même Lambert Wilson qui revient.
Ouais.
Mais dans un état déplorable.
C'est une autoparodie, en fait. C'est une autoparodie volontaire, mais ça reste une autoparodie.
Oui, mais t'as raison, Geoffrey. On est passé effectivement de l'iconisation de chaque personnage dans la trilogie initiale à la destruction complète.
Ce qui fait que Matrix est un film
iconoclaste.
Matrix 4 est encore plus iconoclaste
parce qu'il s'auto-détruit
lui-même.
Il s'auto-détruit.
Il y a cette auto-dérision, c'est vrai, mais regardez à des moments, par exemple, quand on va voir Io, par exemple, on va voir Niobe qui revient. Moi, je trouve ça très bien, et justement, je trouve très bien parce que je pense que ça sort.
C'est une très belle ville.
Ou plus ou moins. Mais en fait, en tout cas, ça.
L'urbanisme est fou. L'urbanisme.
Ils ont quand même un ciel artificiel.
C'est pas mal. Technologiquement, c'est pas mal.
Big up aux ingénieurs.
Mais là, ils sortent de l'autodérision pendant un certain moment.
Non, mais en fait, c'est ça.
C'est le moment où le film devient beaucoup moins bon.
Ouais, pour moi, il est complètement raté.
Ouais, clairement. Ouais.
Et alors là, oui. Oui, moi, je trouve aussi. Mais en tout cas, ce qui est raté pour moi, c'est le fait de mélanger ces deux tons dans tout le film. C'est-à-dire et partir d'un ton qui pourrait être très intéressant, l'autodérision, à un moment vouloir l'assumer, mais à partir d'un moment ne plus vouloir l'assumer parce que ramener Trinity et vraiment la ramener au point où il faut vraiment la sauver, où il faut vraiment qu'elle réapparaisse, c'est aussi un peu sortir de l'autodérision. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire quelque chose de tout à fait différent avec Trinity, que ce soit une illusion de Neo, tout le film par exemple, ou une autre idée, une piste, quelque chose de plus intéressant. Et le fait que vraiment il la sauve et qu'à la fin, les deux réellement, ils réussissent à reconstruire la matrice comme ils veulent un peu et faire un peu n'importe quoi, ça sort le film complètement de l'autodérision et ça fait qu'il tombe dans un ton sérieux. Et le fait de mélanger ces deux et faire une rupture qui n'est pas très claire, très nette et qu'on ne comprend pas véritablement, parce qu'au début du film, on ne comprend pas trop ce qui se passe.
En réalité, pour le coup, je trouve que la rupture est extrêmement claire. L'autodérision s'arrête, et d'ailleurs, symboliquement, ce serait intéressant de voir ce que ça veut dire. L'autodérision s'arrête quand Neo comprend qu'il est dans un monde virtuel.
Et en même temps, non, parce que tu vois, quand il y a le mérovingien qui revient,
Cette scène
est
ça.
Mais c'est là, j'ai envie de dire que c'est presque un.
Mais c'est moins obvious, c'est-à-dire que c'est dans la mise en scène.
C'est plus dans le ton général de l'autodérision, quoi.
En fait, c'est plus dans la narration, c'est dans la mise en scène.
C'est déjà un personnage qui était un peu chelou dans les.
De toute manière, c'était un personnage comique, déjà dans les premiers Matrix, la Wilson, voilà. Une scène du juron. Il est devenu complètement culte, c'est devenu limite un mème.
C'est pour ça qu'il le refait d'ailleurs.
Oui,
il l'a fait dans le 3 aussi et dans le 4. Donc oui, c'est un mème, enfin voilà, mais ça fait aussi partie des trucs qui ont iconisé la saga, quoi.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est une saga de scènes, quoi. Enfin, en vrai, c'est vraiment ça, la scène des pilules et tout dans le 1, c'est une des plus grandes, c'est une des scènes les plus connues de l'histoire du cinéma, tu vois.
Oui.
Genre, c'est des trucs, et puis c'est devenu sur parodie, etc. C'est un truc qui.
Mais du coup, il a tout. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le 4, ils la remettent sur une scène. Ils la projettent sur une scène, littéralement. Donc c'est vrai.
Oui. Puis,
c'est quand même des jeux vidéo très réalistes, d'ailleurs, qui nous proposent. Parce que c'est des jeux vidéo qui fait.
Oui, c'est réalisateur de jeux vidéo.
Ils sont ultra réalistes, les graphismes.
Puis, anecdote, il y a vraiment un jeu vidéo de Matrix qui va sortir. Très réaliste dans la bande-annonce. C'est incroyable. On se rend pas compte qu'en fait, c'est un jeu vidéo.
Et pour la Matrix,
ça c'est fou. Ça c'est très fou.
Mais donc, oui, pour revenir sur ça, je connais quand même un truc intéressant donc, sur le fait de, confiner le discours que le film a sur lui-même à ce début où Neo est complètement pris dans la Matrix et donc aux prises avec une illusion. Et c'est là en fait où justement je me demande en fait comment même Lana Wachowski envisageait ce discours-là, parce que finalement, sacrifier ce discours à partir du moment où, si l'on veut, le masque tombe. C'est presque dire de manière un peu dissimulée que le discours, ce discours d'autodérision un peu méta, qui se questionne lui-même, etc., lui-même, en fait, ne peut pas être une fin en soi. Il y a presque, c'est là où je me demande, et pour revenir un peu à ce que tu disais dans ton article, Geoffrey, où là, peut-être, je sais pas si je serai en désaccord, mais en tout cas, où j'aurai une interrogation. Je suis pas sûr, en fait, que justement, ce soit un aveu d'échec, tu vois, que le film ne soit pas réussi à aller jusqu'au bout de lui-même. J'aurais aimé aussi, comme toi, qu'il soit allé jusqu'au bout de lui-même, mais j'ai l'impression que par ce choix-là scénaristique qui colle au changement de ton, il y a quand même cette idée de dire que non, en fait, on pouvait pas s'arrêter sur la pure autodérision et sur une pure négativité, c'est-à-dire une pure critique de ce qu'on est soi-même, mais que le film était obligé à un moment donné de faire une proposition aussi. Bon, il se trouve que la proposition, je la trouve ratée, est assez faible, enfin, elle n'est pas très élaborée. Il y a une proposition dans le fond, on va dire, on peut dire, oh, ok, avec, voilà, comme tu disais, Godefroy, prendre le virage de l'amour complet, etc., qui en fait, était, en plus, c'était, c'est vrai, en fait, déjà présent, quand même, dans le 3, quand même.
Ouais, mais là, c'est un peu aussi assumé que.
Le moteur de la liberté, ça a toujours été l'amour.
Ce n'est pas compliqué, en fait. Waouh! L'éclairage.
Stroboscope, c'est quoi? C'est une boîte de Matrix, quoi.
Mais c'est aussi assumer que. Enfin, c'est aussi prendre le contre-pied de ce qu'était Matrix dans l'imaginaire collectif, un film avec plein de tiroirs, un film très compliqué, etc., en assumant de faire un scénario qui est on ne peut plus simple, quoi. On ne peut plus basique dans la deuxième partie, du coup, de Matrix 4. La lumière est folle, ouais. La deuxième partie de Matrix 4, c'est vraiment le scénario le plus simple du monde de blockbuster, quoi. Enfin, juste de film d'amour. En fait, c'est une comédie romantique, ouais. Matrix. Comédie romantique. En deux parties.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est ouais, d'accord. Ouais, effectivement, c'est une belle formule. Ouais. C'est un peu ça.
Ouais, mais au fond, ça reste qu'une réitération de ce qu'on a vu dans le 1, 2, 3. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est le moment où Neo dit « Mais tout ce qu'on a fait dans les premiers films, ça servait à rien et tout. » Et il y a quelqu'un qui dit « Mais si, maintenant, il y a des robots qui sont gentils. »
Ah oui.
Et t'as l'impression que c'est une réponse aux gens qui, à l'époque de Star Wars 7, ont dit « Mais du coup, vous avez détruit le 4, 5, 6. » Et là, Neo Chafkel dit « Je fais pareil, mais moi, au moins, j'y ai pensé à cette question. Donc, je vous dis qu'en fait, les robots seront gentils.
Ouais. »
Et ça sert à rien, c'est stupide. Et donc tu dis, elle fait une proposition après l'autodérision, mais c'est même pas une proposition. C'est, pour moi, là, il est là l'échec en fait. Oui, il est dans le fait qu'elle est obligée de recommencer à zéro. Et que l'interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'elle aurait voulu raconter autre chose? Et elle a pas pu parce qu'il fallait qu'il y ait quand même la marque Matrix et du coup on l'a forcée à faire ça. Ou est-ce que c'est elle qui s'est dit je re-raconte la même chose? Et si c'est elle qui l'a fait, je comprends pas du tout l'intérêt parce que. Elle fait rien de mieux en fait.
Non.
Mais c'est tout ça qui est très déstabilisant en fait.
C'est ça qui est aussi. Ouais. C'est que dans cette deuxième partie, comme tu dis, qui voudrait reprendre un ton à la Matrix, en même temps, il subsiste rien de ce que fait la trilogie Matrix.
Parce que du coup, Zion qui a eu deux films pour être présenté, défendu dans une grosse bataille. Là, on a Ayo qu'on présente en 5 minutes en mode maintenant on sait faire des fraises. Et c'est ça, quand on se bat pour des gens qui savent faire des fraises. Et il n'y a pas plus de développement de personnages que ça. Et si, il y a du silence. Et ça, j'en parle dans mon article, mais ça m'a vraiment énervé. C'est elle dit écoute le silence. Et je me suis dit, le silence ne dure que 15 secondes. Tu peux pas dire au spectateur d'écouter le silence si toi-même, en tant que réalisatrice, tu ne crois pas au silence. C'est pas possible. Et il y a tous ces trucs qui font que le film perd complètement ce qu'il avait réussi à mettre en place dans la première partie.
Oui.
Où on avait l'impression qu'il croyait à ce qu'il racontait. Oui. Et après, une sorte d'abandon globalisé de
toute ambition. Il y a un point j'aimerais revenir. T'entends parler tout à l'heure, je sais pas ce que t'avais à dire sur le fait que Matrix détruit l'image du blockbuster mode contemporain, quoi. T'avais un truc comme ça
Surtout que je parlais,
on sait qu'il sort une semaine après Spider-Man.
Je parlais, mais alors là du coup je parlais moins du 4 forcément, même si le 4 le fait aussi, mais plus dans, c'est une critique la plus des sagas en fait, du coup, du principe de saga.
Ouais.
mais qui est assez amusante aussi, forcément, étant donné que bah, c'en est une et une des plus marquantes. Mais c'était plutôt quand je parlais de la réflexion sur l'idée de, d'élu.
Ah oui,
qui est okay, un thème impensif, quoi, en fait. Star Wars, des blockbusters et des grandes sagas, d'ailleurs, aussi, par ailleurs, parce que si on prend, je sais pas. Le Seigneur des Anneaux, alors bon, c'est un poil différent, mais on peut ramener ça quand même à ça. Évidemment, Star Wars, évidemment, Harry Potter, pour citer les plus grands phénomènes à ce niveau-là, et donc du coup, Matrix. Il y en a plein d'autres.
Il y en a plein.
De toute façon, c'est. Là, pour le coup, c'est dès Joseph Campbell, enfin.
Ouais, le mythe du héros.
Au mythe visage, etc. Enfin, c'est le mythe le plus. Peut-être répandu,
visible.
Qui existe. Par exemple, non, mais d'autant plus que pour le coup. Bah oui, Néo est littéralement c'est motif christique, bah puisqu'il meurt et qu'il ressuscite, et qu'il devient vraiment élu en ressuscitant, donc si
et
tu veux...
En gros, dans le 3, il y a une croix sur la dernière scène.
Oui, en plus, il est carrément crucifié, t'as raison. Ouais. Donc voilà, donc on peut difficilement... puis en plus, oui, ça fait une sorte de stigmate, en plus, ses yeux crevés, machin, enfin bref.
Ouais.
Donc la comparaison est évidente. Ouais. Donc oui, carrément, Jésus... Donc on peut le dire, critique de Jésus, finalement, avec la critique de l'élu. Un discours anticlérical assumé, pas étonnant de la part de réalisatrices de gauche, assurément. Ça est un peu humoristique, bien sûr, vous l'avez compris. Même si les rires sont étouffés de la part des autres membres de l'équipe. Mais je parlais de ça. En fait, disons, l'espèce de dire, enfin, dire voilà, en fait, t'es pas le premier, donc t'es pas vraiment l'élu, mais t'es le sixième ou le septième, je me rappelle plus exactement. Parce que je sais plus s'il dit il y en a eu 6 avant toi, ouais, ou s'il dit tu es le 6ème, je sais plus. Mais donc bref, donc il y a aussi une espèce de manière de désacraliser un peu au fait l'idée de l'élu, parce que s'il est plus seul, forcément il est un peu moins élu. Même si paradoxalement il devient vraiment l'élu par le fait qu'il fait pas le choix qu'il devrait faire. Alors, il fait pas le choix de sauver la Terre en fait, enfin de sauver le monde, ou l'humanité plutôt. Et donc paradoxalement il devient élu en refusant un peu son rôle, enfin dans un premier temps, donc du coup il le resacralise aussi, mais quand même, je veux dire, je trouvais ça amusant cette manière un peu de questionner ces espèces de poncifs très récurrents des blockbusters, et donc effectivement de manière encore plus assumée dans cette première partie du 4, on a déjà un peu pas mal parlé, mais et où il y a toutes ces séquences très marrantes de brainstorming partie,
c'est quand même on est sur quand même un Neo qui est névrosé, qui est fatigué et tout dans Matrix 4.
Oui,
qui est beaucoup moins fort. Bleu aussi.
Cette scène est magnifique. C'est très stylé. Mais ouais, on est sur un Neo qui est beaucoup moins puissant, enfin beaucoup moins cheaté que dans les trois premiers Matrix en tout cas.
Oui, c'est sûr. Même d'ailleurs quand il reprend conscience de ce qu'il est, il n'a pas vraiment ses pouvoirs, il reste très mauvais. Ouais.
Bon, alors qu'il y a aussi une astuce scénaristique pour pas le faire tout détruire
dès le début.
Et remettre le même développement de personnage que dans le 1, 2, 3.
Et aussi, encore une fois, reprendre... Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que le film a beau critiquer un certain nombre de tendances, en même temps... Il a tendance justement, lui, à les reprendre toutes. Donc, non seulement refaire un film 20 ans plus tard, en plus, en multipliant, donc on l'a dit, même si c'est sur un ton très différent, en mêlant beaucoup l'humour au blockbuster, ce qui est donc une tendance très, très nouvelle, parce que justement, dans les trois premiers Matrix, il y a très peu d'humour, en fait. Presque pas, d'ailleurs.
Et Amber Wilson, quoi.
Voilà, mais c'est quasiment tout.
Après, c'est quand même très différent de l'humour MCU.
Bien sûr, c'est différent. Ouais. Mais aussi cette tendance à dire, regardez, on va faire le même film, mais le héros, il est vieux cette fois. Et là, du coup, c'est vachement plus intéressant parce que c'est Logan, Star Wars 8 avec Luke Skywalker, machin. Donc il y a aussi ce truc-là. Et là, pour le coup, c'est un peu moins questionné, je trouve. Là, le film a un peu moins de recul sur lui-même à ce niveau-là, je trouve. C'est vraiment.
Après, il y a quand même un truc, c'est que je suis pas sûr que ce soit une volonté des studios de faire Matrix 4 quand même. Parce que Matrix 2 et 3 n'ont pas vraiment bien marché non plus en salle. Et c'était pas des énormes. Matrix 1, c'est un truc de fou.
Ouais.
Mais le 2 et le 3 qui sortent la même année, c'est déjà très chelou. Ce genre
c'est vrai. Surtout que les Wachowski ont fait que des bides. Hein. Il faut quand même le dire, elles ont une carrière à part Matrix.
Sense8 qui a été stoppé par Netflix. Et Cloud Atlas qui est un film. Qui a une fanbase qui adore le film. Mais qui en salle a pas fait un truc de fou.
Pourtant, je crois que Jupiter Ascending, c'est une catastrophe absolue.
C'est un très mauvais film.
Enfin, même si on aime ou qu'on aime pas, le film a fait des entrées nulles. Speed Racer, ça avait l'air d'être un truc sous acide. Moi, je trouve le film incroyable.
Ouais,
mais
il est drôle.
Mais
ça a l'air marrant. Ouais,
ça a fait zéro entrée. Et on comprend quand on voit les bandes annonces que le grand public n'a pas envie de se déplacer pour voir un truc qui a l'air complètement fou. On dirait qu'on est sous drogue. Donc il y a aucun film qui a marché. C'est vrai qu'on peut se demander si c'est vraiment Warner Bros. Qui était à l'origine du projet et qui s'est dit, tiens, si on faisait un nouveau bide. Surtout, ils l'ont sorti en même temps que Spider-Man, tu vois. Pour moi, à ce niveau-là, c'est un suicide commercial.
Stratégiquement, ils se posent la question dans le film un peu. Enfin, de toute façon, ils en parlent dans le film de ça. De comment faire pour.
Bah, c'est ça, c'est toute cette première partie où, voilà, Neo, enfin, monsieur Anderson, brainstorm avec son équipe pour comment ils vont concevoir Matrix 4, le jeu. Parce que, voilà, effectivement, on l'a pas dit, mais. C'est vrai qu'on n'a pas du tout rappelé le scénario des films, etc. Non. Les trois premiers, à la limite, on pouvait partir du principe que la plupart des gens les connaissent, mais le 4 peut-être un peu moins. Donc voilà, Neo, effectivement, a oublié tout ce qui lui était arrivé et se retrouve, tu l'as dit, développeur de jeux vidéo, mais développeur de jeux vidéo Matrix. Ouais. Ouais. Donc une trilogie de jeux vidéo qui, évidemment, correspond complètement à la trilogie de films. Et exactement comme dans la réalité, notre réalité, on réfléchit à faire un quatrième opus. On lui met la pression pour le faire et on se demande comment faire un bon, et donc là, la plupart de ses collaborateurs mettent en avant que faut reprendre les éléments clés de Matrix, donc le cuir, l'action au ralenti, les réflexions un peu méta, un peu philosophiques, etc., qui détruisent le cerveau de ceux qui les voient, pour reprendre plus ou moins vaguement les termes d'un des personnages du film. Effectivement, donc on voit que, et là fort intelligemment, en tout cas pour le début, aucune de ces idées ne seront retenues pour le film concrètement. Donc ça, c'est quand même plutôt bien vu.
Revenons à nos moutons.
Vous avez encore des choses à dire ou pas sur Matrix?
Sur le 4, moins. Sur les autres, je sais
on
pas.
On peut revenir sur les autres si vous avez des choses à dire ou sinon.
Lucas qui a toujours rien dit, t'as pas une petite réflexion.
Lucas parle de la trilogie originale.
T'as pas quelque chose à dire, Lucas?
Sans Matrix?
Bah oui, un avis général sur Matrix.
On veut l'avis des cinéphiles. Ouais.
L'avis de l'architecte sur sa propre création.
Moi j'ai pas vu le 4 déjà, donc
je suis en fou, l'architecte est pas dans le 4.
Voilà, exactement.
Heureusement.
T'es mort dans le 4 en fait. Ouais. T'es mort dans le film, mec.
T'es mort.
Moi j'ai un avis assez consensuel sur la trilogie Matrix. J'aime. Enfin, quoique. Même le 1, je suis pas un fan inconsidéré du Matrix 1, que j'aime bien. Et j'aime bien le 2 aussi, et j'aime pas le 3. Donc globalement, voilà pour mon avis sur Matrix. Mais en fait, c'est parce que ce que je pensais a été complètement dit par Geoffrey tout à l'heure, c'est-à-dire que le propos philosophique du film est pour moi beaucoup moins puissant, on a bien conscience qu'on va pas avoir des illuminations en regardant Matrix, mais je veux dire beaucoup moins passionnant que ce qu'on en dit, et que pour moi l'intérêt du film est complètement ailleurs, c'est-à-dire dans les scènes d'action, comme disait Geoffrey. Et à ce titre, moi je trouve que pour moi, alors j'ai pas revu Matrix 1, donc il faudrait que je le revoie, mais la scène dans le 2, toute la scène sur l'autoroute là, une sorte de combat contre les deux jumeaux, etc., c'est pour moi la meilleure scène que j'ai vue dans Matrix. Alors il faudrait que je revoie le 1.
Presque voilà. D'accord.
Mais pour moi, en particulier le segment où il y a Trinity qui est sur son scooter là, et qui fait une sorte de course-poursuite avec les voitures à contre-courant de l'autoroute. Enfin, c'est assez brillamment mis en scène. Le montage est assez impressionnant dans les cuts qui passent, avec les voitures qui passent, etc. C'est assez impressionnant à regarder. Et franchement... voilà quoi. Ensuite, quand ils discutent du choix, j'en ai plus rien à faire en fait. J'ai envie qu'ils... vraiment, ça me passionne beaucoup moins. Quoi.
C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus marrant quand la chérie de Neo est à contresens. voilà.
Oh là là.
Waouh. Okay. Wow. Ok, la référence est dingue. Mais c'est vrai, non, mais sinon, mais après, moi je trouve que par contre, pour le coup, le 1 où il y a quand même un peu moins d'action, où la vraie action pure arrive à la fin,
globalement. Oui, moi je pense qu'il y a une scène, surtout la scène de combat entre Neo et l'agent Smith dans le métro, c'est quand même une scène très chorégraphée et elle est quand même incroyable. Pour moi personnellement, c'est la meilleure scène de combat qu'il y a dans les trois films, pour le fait qu'elle a un poids hyper important. C'est le moment aussi où Neo, toute Morpheus de tout le film, tu vas devoir confronter à un moment les agents. Parce que c'est nécessaire pour pouvoir se libérer de Matrix totalement. Et c'est là où ils confondent vraiment. Et à la fois, la scène de combat, elle est incroyable. Et il y a la phrase mémorable, « My name is Neo », qui retentit après. Je trouve que c'est quand même une scène iconique. Là, vraiment iconoclaste. Et puis, c'est incroyable, quoi. Donc, dans le premier film, je suis plutôt d'avis qu'il y a quand même de l'action. Alors, c'est une action moins CGI, plus chorégraphée, un peu peut-être moins intéressant pour comparer à ce qu'on voit aujourd'hui dans le blockbuster. mais quand même, je trouve qu'il y a pas mal d'action et que c'est quand même incroyable. Il y a des scènes d'action incroyables.
Oui, mais ce que je voulais dire, du coup, c'était pour souligner quand même que le film ne se repose pas, selon moi, que sur ces scènes d'action. D'ailleurs, on le voit très bien dans le 3, où il y en a, à mon goût, beaucoup trop.
Oui.
Oui.
Non, mais c'est plus les mêmes, d'ailleurs.
Voilà, c'est, voilà. Mais c'est surtout qu'il y en a beaucoup plus hors de la matrice, et là, d'un coup, ça devient quand même beaucoup moins intéressant, parce qu'on tombe dans un espèce d'actionneur beaucoup
voilà, plus classique. Voilà, c'est ça, le 3 tombe complètement dans le blockbuster ouais. classique de science-fiction.
C'est vrai que c'est assez dommage. Mais je veux dire quand même que pour le, dans le 1, donc il y a moins d'action stricte, même si en fait il y a quand même des scènes de semi-action ou quasi-action.
De l'entraînement de kung-fou avec
Morpheus. Voilà, ou alors de descente de police où on tire 2-3 coups de feu, on fuit en même temps, on fait un peu de parcours, etc. Mais je trouve quand même que le film, alors là surtout davantage le 1 que les autres, bénéficie quand même aussi d'une ambiance un peu générale qui marche très bien. Notamment voilà, avec les scènes de la matrice qui sont aussi beaucoup plus nombreuses que dans les suivants, surtout dans le 3, où en fait on est presque plus dans la maîtrise dans le 3. En fait,
ouais, c'est un film de SF, ouais. Le 3 en fait, assez.
Mais je trouve que quand même la maîtrise donne une espèce d'atmosphère de froideur quand même, qui selon moi fonctionne très bien. Alors certes, déjà parce qu'elle est accentuée visuellement, parce que le filtre verdâtre déjà donne ce ton un peu cadavérique. Non vivant à tout ce qui entoure, mais même de manière globale, la manière dont les passants se comportent, de manière très, on a presque l'impression de retrouver les descriptions de New York de Céline dans Le Voyage au bout de la nuit, ou enfin cette espèce de file de passants qui regardent rien, qui font ce qu'ils vont tout droit, ou même c'est tout bêtement l'ouverture du film, enfin pas l'ouverture, mais ça arrive très vite, la scène de l'open space, oui, enfin en tout cas toutes ces mise en scène de ces aspects très robotiques en fait de cette société de la matrice qui évidemment fait écho à la société hyper connectée métropolitaine et a fortiori new-yorkaise même en fait là clairement qui je trouve fonctionne bien, enfin nous plonge vraiment, on a l'impression vraiment de d'entrer dans un univers très concret et qu'on va suivre au fur et à mesure quoi. Et ce qui est pas si simple finalement, je trouve qu'il y a pas tant de sagas que ça qui arrivent à créer un univers crédible et très marquant, et assez marquant pour créer des espèces de produits dérivés qui flotteront aussi dans cet univers-là, parce qu'il faudrait peut-être en parler rapidement, mais Matrix, c'est pas juste des films, ça a aussi donné lieu à des jeux, comme tu l'as dit, Yann. Enfin, il y a un jeu nouveau, mais il y en avait aussi
à
l'époque sur PS2, je crois, certains qui étaient sortis. Et il y a aussi une série de courts-métrages, voilà,
d'animation. Ah oui,
voilà. Animatrix qui sont dans le monde de Matrix. Matrix, effectivement, c'est un univers qui est assez, qui apparaît comme assez large pour intégrer d'autres histoires, d'autres développements, et parce que justement, il dépasse un peu. Enfin, ouais, je trouve que la perception qu'on en a dépasse ce qui nous en est montré. Quoi. On se dit que si on voit certains logiciels, par exemple, assez exubérants comme le Mérovingien ou je sais pas le Maître des Clés, enfin il y a quelques-uns, l'Oracle évidemment, qui sont montrés, on aimerait bien même presque en savoir plus sur cette espèce de société un peu presque secrète des logiciels qui ont tous des rôles très déterminés, mais qui en même temps, par des jeux de pouvoir, essaient de gagner en influence dans la Matrix, tout ça. Je trouve, dans la Matrix, tout ça
Une
substance en fait.
Assez facile à faire. Enfin, on voit rapidement ce qu'on pourrait créer pour élargir l'univers. Un peu comme Star Wars finalement.
Oui,
je pense que c'est les licences qui ont été les plus.
Star Wars pour le coup, c'est énorme l'univers étendu. C'est énorme. Mais voilà, pour résumer tout, je trouve que finalement, pour un monde immatériel, il est extrêmement substantiel en fait, ce monde de la Matrice. Et voilà, c'était à peu près tout. Et aussi parce que voilà, justement, il est souligné, sublimé presque aussi par certains gimmicks visuels. Et notamment tous ces jeux de reflets très fréquents.
Notamment faux raccords volontaires dans les lunettes où on voit des caméras ou des trucs comme ça.
Ouais. Par exemple, oui, si ça sert à ça. Ou certains plans, oui, où carrément c'est mis en scène. Par exemple, si on revient sur la scène des pilules, le reflet des pilules dans les lunettes de Morpheus.
Ouais.
Qui donne quand même aussi un truc très marquant visuellement.
Et aussi dans Matrix Cast, il y a les reflets avec les.
Qui est véritablement, enfin à quoi ressemble véritablement Neo dans la Matrice. C'est vrai que c'est très subtil.
J'ai pas trop capté.
En fait, c'est à ça que Neo ressemble, mais d'ailleurs,
lui se conçoit comme ce qu'il est, comme Keanu Reeves, mais personne ne le voit comme étant Keanu Reeves. C'est de manière qu'il reste dissimulé et qu'on le reconnaisse pas.
Et d'ailleurs, ce mec, je crois que c'est soit le mec de Trinity, enfin de l'actrice qui joue Trinity.
D'accord.
Enfin, il y a un truc comme ça, le vieux personnage. D'accord. Il y a un truc qu'on joue en en famille.
Ok, marrant. D'accord.
Il y a deux gosses Trinity d'ailleurs.
Ouais. Qui sont ses vrais gosses. Enfin, il y a toutes des histoires comme quoi les personnages sont les vrais trucs des. Enfin, les personnages sont vraiment les fils de Trinity, enfin, je sais pas, il y a des machins comme ça, qui sont peut-être des secondes lectures dans tous les sens.
Comme dans Licorice Pizza avec les graisseurs de Alan Alda.
Non, parce que là, vous voyez pas, mais Lucas fait genre waouh, le truc de ouf, des gens de la même famille qui jouent. Quand il a dit la même chose sur Licorice Pizza, il a dit waouh, c'est un chef-d'œuvre. Quelle idée de génie d'avoir mis une famille en vrai dans le film. Donc voilà, en vrai, l'objectivité du mec, toujours appréciable.
Ok, du coup, Neo, il est beaucoup moins stylé, en fait, dans la matrice pour les gens. C'est un vieux.
C'est un vieux, totalement.
Dire, voilà, ouais. Pas qu'il n'y a rien. On est gérontophobe en plus d'être...
Ouais, alors, concluons, peut-être.
Concluons.
Qui se sentirait de conclure Pas moi.
Voilà. Ah, parfait, mais illégal.
Il est temps de prendre la pilule rouge.
Waouh. On restera là-dessus.
De sortir de la matrice.
Time. Voilà. Tout est dit.
C'était dit les gars.
Bon bah écoutez, à ceux qui seront restés jusqu'au bout de cet épisode assez laborieux quand même, je veux dire. Et ben merci de nous avoir écoutés.
Prenez
la pile rouge, voilà.
Toujours comme Neo qui n'hésite pas du tout d'ailleurs à prendre la pile rouge. Dans Matrix 1, il n'hésite pas trop.
D'ailleurs même. Si te paraît bizarre, tu vois, même on se demande pourquoi Morpheus lui redit un truc avant qu'il l'apprenne. Parce que le mec est chaud, il va prendre la pilule. En plus, non mais attention. T'es sûr de ton choix.
C'est quand même l'élu, quoi.
Voilà.
C'est censé être l'élu.
Donc voilà, écoutez, merci à tous.
De toute
façon, Matrix est un documentaire. Voilà, sachez-le.
Débranchez-nous.
Voilà, c'est prouvé, hein. Voilà. Bon.
C'est pour moi qu'il dit.
Allez.
Bisous.
Bisous à tous.
Merci.
La bise.